Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G, proposé par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et inspiré en pleine nature qui vous propose de nombreuses activités et formations en lien avec le végétal pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Nous donnons aujourd'hui la parole à l'ennemi juré du jardinier, le chiendent, une plante injustement qualifiée de mauvaise herbe envahissante, un végétal dont le nom est synonyme d'invasion, de prolifération exubérante. Prononcer son nom provoque panique, angoisse, frisson d'horreur dans le regard de nombreux jardiniers. Pour dépasser cette peur irrationnelle, nous recevrons dans la séquence interview Rémi Pépiniériste à Chef, qui nous propose de magnifiques plants fruitiers, et Karine, qui nous présentera dans la chronique Le bonheur est dans les simples, les multiples vertus médicinales, notamment au niveau urinaire, dans la chronique Le bonheur est dans les simples. Le concept de mauvaise herbe est souvent associé à des pertes de rendement, de concurrence déloyale, voire de parasitisme vert. Pourtant, l'histoire de l'humanité montre que notre espèce, lorsqu'elle vivait en osmose avec la nature, a d'abord envisagé les autres espèces en termes utilitaires et de façon opportuniste. Chaque végétal devient ainsi une ressource potentielle pour se nourrir, s'abriter, se vêtir ou encore se soigner. Pour comprendre cette erreur de jugement sur la supposée compétition avec les herbes sauvages, je voulais partager un extrait de l'ouvrage incontournable du père japonais de l'agriculture sauvage, Masanobu Fukuoka, dans La révolution d'un brin de paille. Il y a 20 ans, quand j'encourageais l'utilisation d'une couverture permanente dans les vergers, il n'y avait pas un seul brin d'herbe visible dans les champs ou les vergers dans tout le pays. En voyant des vergers comme les miens, les gens arrivèrent à comprendre que les arbres fruitiers pouvaient très bien pousser parmi toutes sortes d'herbes. Aujourd'hui, les vergers couverts sont communs au Japon, et ceux qui ne le sont pas sont devenus rares. C'est la même chose pour les champs de céréales. Riz, orge et avoine peuvent pousser avec succès, tandis que les champs sont couverts de trèfles et de mauvaises herbes tout au long de l'année. Ainsi rassuré par ce témoignage, ouvrez grand vos oreilles pour découvrir les fabuleuses propriétés du chiendent. Le chiendent fait partie de la famille des Poacées, famille autrefois et encore très souvent appelée graminée. Pour les jardiniers et les agriculteurs, le chiendent est une plante envahissante et difficile à éradiquer. Ainsi, le nom de chiendent désigne souvent par extension les plantes herbacées indésirables dans les champs cultivés. Aussi, avant de raconter l'histoire de cette plante, il me paraît important de vous présenter en préambule le contexte familial de cette espèce poacée. La dynastie des graminées comprend une grande diversité de membres, 1200 espèces réparties en 780 genres. Cette dynastie voyageuse et exploratrice, la cinquième plus importante du monde végétal cartographié par les humains, a colonisé toute notre planète, des déserts aux plus hautes montagnes, des forêts humides aux rivages ensablés. Certaines, aux noms très connus et évocateurs, comme les bambous et les céréales, ont été domestiquées au cours des siècles pour nourrir, abriter et protéger les humains. Du point de vue économique, cette famille est de première importance pour l'alimentation, l'industrie et l'artisanat. Habile, cette dynastie de plantes s'est ainsi infiltrée dans nos vies et s'est rendue ainsi indispensable au développement des humains. Partout sur la planète, les membres de la grande famille des graminées sont facilement reconnaissables à leurs caractéristiques physiques communes qui leur confèrent en quelque sorte un air de famille. Voici en quelques mots un portrait type de graminée. Un chevelu racinaire touffu et ramifié qui assure un ancrage puissant à la terre, une tige creuse, appelée chaume, sur laquelle s'enroulent et se superposent face à face les feuilles linéaires aux nervures parallèles. À la puberté émerge l'inflorescence en épillée qui porte, après fécondation, des fruits secs appelés grains. Chaque grain abrite une graine riche en amidon dont l'embryon ne porte qu'un seul cotylédon. Bien entendu, au cours de l'évolution, la dynastie des graminées s'est adaptée aux différents milieux terrestres. De cette capacité extraordinaire sont nés de nombreux clans qui se sont spécialisés pour survivre, façonnant les paysages de leurs feuillages ondoyants. Dans les lieux ouverts, soumis au vent, qui occupent 40% de la surface terrestre, elles forment les prairies et les savanes. D'autres, plus timides, s'invitent dans les forêts, alors que certaines, assoiffées, filtrent l'eau des zones humides. Vous pouvez le constater, le chien-dent appartient à une famille d'aventurières accrochées à la vie et conquérantes. Il est donc normal qu'il soit l'héritier de ce tempérament. Partons à sa rencontre. Avec sa tige grêle et rampante, le chien-dent paraît au premier abord plutôt inoffensif et fragile. Agile et discret, il doit sa force de propagation exceptionnelle à son puissant système racinaire, capable de s'enraciner au moindre contact avec le sol. Chaque souche herbacée émet des pousses souterraines qui parcourent de grandes distances au vu et au su des jardiniers. Il émet ainsi, au gré de sa progression dans le sol, des souches peu touffues, d'aspect malingre, aplaties, comme pour rester cachées. Cette tige, appelée chaume, mesure de 40 cm à 1 mètre. Elle porte des feuilles linéaires, vert clair, plates et pointues, aux nervures apparentes. Cet aspect rampant a généré de nombreux surnoms suggestifs. Chien dent rampant, froment ou blé rampant, tranuge, herbe à deux bouts, petit chien dent. D'ailleurs, pourquoi un tel nom, chien dent? À l'origine, il se prononce dent de chien. On le surnomme aussi l'étui de chien. Plusieurs théories s'opposent à ce sujet. Tantôt son nom lui a été donné parce qu'il guérit les chiens qui se purgent en en mordillant les pouces. Tantôt, il est lié à la forme des ergots blancs et pointus qui ressemblent aux canines de chien. Bon, peu importe finalement, hein, car le nom des plantes participe à notre imaginaire collectif. Vivace, le chien-dent survit très facilement dans le sol et se multiplie et se propage grâce à ses rhizomes blanchâtres souterrains. Il colonise volontiers la frondaison des haies, les champs et les jardins. Il émet en juin et juillet des inflorescences en épis, vert glauque aplati, très reconnaissable. Comme ses nombreux cousines et graminées, le chien-dent fait appel au vent pour disperser ses graines, malgré tout inoffensives, car il préfère se propager sous terre. Son nom latin, Agropyron repens, signifie littéralement « champ de blé qui pousse rapidement ». Le terme « repens », qui évoque la rapidité, la soudaineté, la nouveauté, décrit la faculté d'adaptation de cette plante à l'environnement qu'elle côtoie. On peut dire raisonnablement que l'envahissement des cultures par cette plante a été favorisé par le travail du sol, que ce soit le labour, le rotavator, etc. En effet, toutes ces actions humaines et motorisées ont pour conséquence de multiplier les souches, du fait de la capacité du chien-dent à générer de nouveaux pieds à partir de chaque débris de tige. Un conseil donc pour les jardiniers et les agriculteurs, cessez le travail du sol pour limiter la progression de la plante. Dans les potagers, il faut donc mieux l'arracher à la main ou planter densément pour lui faire concurrence, comme par exemple en semant un engrais vert, à l'instar de la phacélie. Cela permet aussi d'éviter les sols nus qui favorisent son installation. À noter que le paillage ne limite pas son développement puisque sa propagation s'effectue sous terre. Une autre technique consiste à laisser la parcelle au cochon qui, en fouissant, limite le développement de la plante. Le système racinaire du chien-dent, très dense, consolide par ailleurs de façon efficace les talus et limite leur érosion. Allez, je vous propose maintenant de retrouver la séquence interview avec le témoignage de Rémi Parmentier, pépiniériste à chef, pour parler plantation et entretien des arbres fruitiers. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Donc tu es pépiniériste nouvellement installé sur la commune de Chef, voisine d'Écuyer, où siège le Planty. Donc en quoi consiste ton activité ?
Alors moi j'ai commencé à produire des arbres fruitiers il y a 3 ans. Donc ça consiste à greffer des arbres fruitiers. Et aujourd'hui j'ai trouvé des terrains, des serres. Et du coup, je m'installe et j'ai un peu élargi la gamme que je propose. C'est-à-dire que j'ai toujours du fruitier et je vais aussi sur d'autres plantes comestibles au jardin, comme les plantes aromatiques et les petits fruits. Et j'ai aussi des arbres de haies bocagères à proposer aux particuliers et aux professionnels.
D'accord. Et donc, comment se passe la commercialisation ? Les gens viennent sur site, ils peuvent commander.
Eh bien, la pépinière s'appelle la pépinière de l'Écotière. Il y a un site internet. Pour l'instant, c'est plutôt sur rendez-vous. On peut avoir toutes les informations sur le site ou en m'appelant. Et à partir de ce printemps, on va avoir aussi des journées d'ouverture qui sont pas encore définies pour la vente de plants potagers et de aromatiques et de petits fruits.
Donc l'émission Les Plantes Vagabondes est une émission qui, de façon plus large, traite de notre lien à la nature. Donc de par ton métier, évidemment, tu es
au contact.
Donc comment toi tu appréhendes ce lien avec la nature dans ton métier, que ce soit en production de plants ou le lien que tu as avec tes clients en fait?
Alors dans mon métier il y a plusieurs facettes et effectivement il y en a qui pourraient éloigner de la nature, même si ça peut paraître un peu controversé. Il y a tout le côté technique où on va aller chercher dans la plante comment elle fonctionne, comment on va pouvoir greffer, donc fusionner deux arbres ou faire des boutures. Ça représente une partie où on comprend le végétal et à la fois on peut avoir tendance à se perdre un peu dans la technique. Mais ensuite, il y a aussi tout le côté où on voit les graines qui germent, on voit tous les petits plantules qui reprennent. Nous, on travaille vraiment avec des graines, donc c'est vrai que de les amener de la graine aux plantules, c'est très intéressant. Après, on a beaucoup de moments qui sont à l'extérieur. Et moi, j'essaye souvent quand même de chaque année faire des chantiers de plantation aussi pour passer du temps en nature. Ça, c'est dans mon activité professionnelle, mais ensuite aussi comment je conseille les clients, parce que à la pépinière, on a vraiment cette envie d'accompagner les gens pour qu'ils plantent les bonnes plantes autour dans leur environnement. Et du coup, on donne des conseils en fonction du sol où vont être plantés les arbres, ou bien des différentes techniques qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit dans les jardins ou en potager. Toujours intéressant de favoriser des méthodes comme le paillage, ou alors d'arriver à faire fertilisation naturelle, ou alors à favoriser la biodiversité dans son jardin. Toutes ces petites choses qui font que, en fait, si chaque jardin devient un petit lieu de biodiversité, finalement, on arrivera à créer une grosse maille qui me ferait plaisir de voir, quoi.
Donc aujourd'hui dans notre émission, nous parlons d'une plante un peu détestée des jardiniers, le chien-dent, et qui nous a permis aussi d'évoquer l'intérêt ou pas d'ailleurs du désherbage. Comment tu abordes ça, ce côté désherbage?
C'est vrai que le chien-dent a cette particularité d'être omniprésent. Ben, on appelle chien-dent souvent, c'est tout l'ensemble de graminées qui composent des tissus en surface de la terre, là, qui sont impénétrables. Déjà pour les arbres, en fait, c'est pas dérangeant quand l'arbre est grand, mais effectivement toute la phase où la plante est petite, en fait, elle va aller puiser son eau et ses nutriments dans les mêmes étages que le chien-dent et que le couvert végétal en général. Donc vraiment, moi, ce que je conseille, c'est quand même sur au moins 40 cm autour de l'arbre. de retirer le couvert dans un premier temps pour faire sa plantation et de bien pailler l'arbre de façon à, dans les premières années, lui permettre de s'implanter sans avoir la concurrence du chien d'encre. Ça, c'est par rapport aux arbres. Et ça va être pareil lorsqu'on va planter une haie ou quoi. En fait, il faut vraiment faire attention dans les premières années à la concurrence avec le chien d'encre. Mais ensuite, d'une fois que c'est implanté, moi, je pense que c'est aussi une plante qui a sa place dans les jardins.
Bah, merci pour ce témoignage. Et puis, voilà, le message, mettre de la biodiversité partout dans son jardin.
Super, salut.
Allez, pour faire suite à ce beau témoignage, faisons une pause en chanson avec la chanteuse Luciole dans son titre Apache, qui évoque avec bonheur et sensibilité notre lien au vent, aux éléments et aussi notre lien compliqué, notre rapport compliqué aux plantes.
Je ne crains pas les charbons qui me brûlent les pieds, les chardons qui me piquent, les charmants qui m'expliquent ce que je sais déjà. J'avance sur des échasses pour pouvoir surplomber, avoir la meilleure vue, entrevoir l'horizon que je ne connais pas. Je me hisse, je m'extrais, je suis le vent léger, je suis le vent. Je me je m'échappe et je m'arrache, ouais, je m'en vais. Faut que tu saches que si tu me chasses, il est trop tard. Je suis apaché, je m'échappe et je m'arrache, ouais, je m'en vais. Faut que tu saches que si tu me chasses, il est trop tard. Suis déjà loin. Je ne crains pas les barrages, je ne crains pas les échardes. Les écharpes qui étouffent, je chavire, je chaloupe, mais jamais je ne ploie. J'avance à pas feutrés, je suis sur le qui-vive. La chaleur du brasier, la puissance de l'eau vive, je ne plie sous aucun poids. Je me hisse, je m'extrais, je suis le vent léger, je suis le vent. Je me hisse, je m'extrais, je suis le vent léger, je suis. Je m'échappe et je m'arrache, ouais, je m'en vais. Faut que tu saches que si tu me chasses, il est trop tard. Je suis apaché, je m'échappe et je m'arrache, ouais, je m'en vais. Faut que tu saches que si tu me chasses, il est trop tard. Suis déjà loin. J'avance sur des échasses pour pouvoir surplomber, avoir la meilleure vie, entrouvrir l'horizon que je ne connais pas. Je suis apache et je m'en vais. Suis déjà loin, je suis apache et je m'en vais. Suis déjà loin, je suis.
Sur Radio G 101.5 FM dans l'émission Les Plantes Vagabondes, nous partons aujourd'hui à la rencontre du chien d'encre. L'usage médical du chien d'encre est très ancien et trouve peut-être son origine sur l'observation des chiens qui se soignent et se purgent en le consommant. Abondante et facilement accessible, il suffit de sortir sa faux pour en récolter. L'usage principal de cette plante est lié à ses propriétés diurétiques, rafraîchissantes et émollientes. Une infusion de chien d'encre désaltère les malades et améliore le travail des reins. En décoction, il facilite l'élimination des calculs rénaux et soulage les inflammations urinaires et intestinales. Il agit aussi efficacement contre l'énurésie des enfants. Les décoctions, riches en sucre, ont aussi un effet antidiabétique et peuvent ainsi faciliter la perte de poids. Ajoutée au bain, cette plante aide à sortir de la dépression. Pour parler des autres vertus médicinales et propriétés du chiendent, je vous invite à écouter la chronique « Le bonheur est dans les simples » avec Karine, paysanne herboriste Bonaflora.
Le chiendent a pas mal de vertus médicinales hein, qu'on ne soupçonnerait pas du tout à première vue et qui est reconnu dans notre flore médicinale de France, comme le précise Pierre Le Taguy, ethnobotaniste de France, dans son ouvrage « Les bonnes herbes ». Elle est diurétique comme plante et dépurative, c'est-à-dire qu'elle est conseillée dans tous les cas de maladies infectieuses avec fièvre ou des problèmes urinaires dont l'origine se trouve dans les reins. La vessie, elle est utilisée aussi en cas de rhumatisme, de gouttes et de coliques, et voire même dans les calculs rénaux, biliaires, et qui résiste à toute forme de médication. Donc ça va vraiment être une aide pour drainer les liquides qui stagnent et qui portent les pathologies et les problèmes métaboliques du corps. Maurice Mességuier, qui lui était herboriste à une certaine époque, compare même le chiendent comme à des poils à balai, avec ses racines qui sont une fois sèches très fibreuses. Il compare à des poils à balai et il dit que c'est dans notre intestin qu'elles passeront le plus efficace des coups de balai. Donc retenez ça, pour un nettoyage de printemps par exemple, ça peut être assez efficace. Au niveau de la plante, qu'est-ce qu'il faut récupérer dessus? Qu'est-ce qui nous intéresse pour faire une décoction? Ça va être surtout toutes les parties de la plante. Des rhizomes, des jeunes pousses de printemps, des feuilles, des tiges, des épis qui sont bien mûrs et qu'on retrouve tout le long de l'année. Par contre, si vous faites une récolte de rhizomes, donc de racines, prévoyez bien de faire un repérage au moment du printemps. En tout cas avant l'automne, parce que c'est à l'automne que les racines s'utilisent, parce qu'elles vont avoir toute l'énergie de la plante qui sont dans les racines à cette période de l'année. Donc on repère bien avant pour pas avoir de confusion en automne, une fois qu'on aura moins de visibilité sur les parties aériennes, pour pas se tromper et confondre avec une autre plante. Donc une fois que vous avez fait votre petite récolte, soit de rhizomes, soit de feuilles, soit de tiges de chiendent, vous préparez un litre d'eau chaude à bouillir et vous jetez une petite poignée de feuilles, racines de ce que vous avez récolté sur le chiendent, coupé en petits morceaux préalables et bien lavés. Et en termes d'usage, je vous conseille, selon le livre de Maurice Mességuier, de prendre 2 tasses par jour ou 4 par jour durant 3-4 jours. Maximum, parce que c'est un bon dépuratif, on n'a pas besoin de plus, sinon ça peut nous faire un peu bizarre. Et voilà, 3-4 jours pendant une petite cure de printemps, ça peut aider le corps à partir du bon pied pour le reste de l'année. Alors n'hésitez pas, en sachant toutes ces informations et les bienfaits du chiendent, à débarrasser le voisin de ses épis de chiendent si jamais vous en avez pas chez vous. Le voisin vous dira sûrement pas non, il vous dira même merci.
De plantes sauvages, le chiendent est comestible. En période de disette, les humains se tournent volontiers vers la ressource locale. Ainsi, le rhizome frais de chiendent, surtout celui d'une autre espèce appelée gros chiendent, Cibodon dactylon, séché et broyé, il se consomme associé au froment pour la fabrication du pain. Il est possible de confectionner un café sauvage à partir des rhizomes hachés et grillés. Ces mêmes tiges souterraines, riches en sucre, servent à fabriquer une délicieuse bière de chiendent, dont voici une recette. Arroser d'eau tiède sans les recouvrir 5 kg de rhizomes de chiendent. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez y aller pour le désherber. Les conserver humides quelques jours. Lorsque des pousses blanches apparaissent et atteignent 1 cm environ, Versez les rhizomes dans un baril avec 1 kg de baies concassées de genévrier, 60 g de levure de bière et 2 kg de sucre. Versez 8 litres d'eau chaude, remuez. 3 jours après, refaites la même opération avec 9 litres d'eau. Fermez la barrique et laissez reposer une semaine en veillant à laisser un trou pour la respiration. Transvasez ensuite dans un autre baril en veillant à laisser le dépôt au fond du premier et à bien aérer le liquide. Vous pouvez boire votre bière 2 jours après. Bonne dégustation. Avant de devenir la plante détestée de nos cultivateurs, beaucoup de civilisations ont précédemment associé le pouvoir du chien-dent à différentes cérémonies et aux rituels. Le symbolisme prend toute sa part dans leur quotidien ou aussi pour des événements importants. Dans les périodes antiques, les Romains décernent une couronne de chien-dent aux guerriers qui ont fait lever ou soutenu un siège pour célébrer leur persévérance. En Chine ancienne, les racines blanches du chien-dent sont associées aux rites funéraires en filtrant le vin du sacrifice. Ils sont aussi associés aux rites de reddition. Le feuillage, quant à lui, sert de litière aux victimes de sacrifices. Le chien-dent a le pouvoir d'accroître les forces psychiques et de favoriser la résilience par la purification. Les Gaulois reconnaissent au chien-dent la faculté de désenvoûter et de chasser les mauvaises influences. Placé sous le lit ou porté sur soi, le chien-dent attire de nouveaux amants. Les histoires populaires racontent que si une personne parvient à extraire la plante entière avec toutes ses racines, elle trouvera une pièce d'or, voire un diamant à la dernière racine. Bon, c'est un joli défi et une jolie façon de montrer toute la difficulté à récolter cette plante entière. Pour illustrer cette formidable faculté du chien-dent et son symbolisme dans nos vies, je vous invite à écouter Raymond Queneau dans son livre « Le chien-dent », publié en 1933. Le chien-dent, cette herbe de malheur qui pousse sur le terrain du marasme, ils la piétinent allègrement, sans y prendre garde, trop soucieux de courir après leurs émoluments. Elle accroche pourtant, elle griffe, elle en serre. Le titre du roman a donc valeur d'emblème. Quelle image pourrait mieux dire cette perpétuité du mal et du malheur que celle du chien-dent, cette mauvaise herbe proliférante, aux racines si vivaces et si ramifiées que quand on croit les avoir toutes extirpées, il en reste assez pour réenvahir l'espace nettoyé. Faisant partie de notre réalité la plus familière, elle peut suggérer, avec une incomparable simplicité, l'angoissante et insoluble question de savoir si un désir de nuire n'est pas inscrit dans la nature de l'homme. Il faut bien se remémorer la date où a été écrit ce roman, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Avant de nous quitter, laissons le mot de la fin à Masanobu Fukuoka, qui a déjà introduit cette émission. Je plaide pour une agriculture du non-agir. Aussi, beaucoup de gens viennent me voir en pensant qu'ils trouveront une utopie où l'on puisse vivre sans même avoir à sortir du lit. Ces gens se mettent le doigt dans l'œil. Ici, l'argument n'est pas contre le travail, mais contre le travail inutile. Et je rajouterai, en conclusion, en s'épaulant sur la dynamique naturelle de la vie. Cette émission est terminée. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission sur le site radio-g.fr. Attention, il y a 2 pages de podcast. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Claudie, Christelle et toute l'équipe du Planty vous disons à bientôt et donnons rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle plante.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-G.